Alors, bonjour et moi aussi, merci, je remercie Renaud et Clémence de m'avoir invité à participer à cette journée. Et avant de me livrer à mon tour à mon petit speech, je voudrais vous prévenir que Michel Artigue et moi-même nous ne sommes absolument pas concertés. Mais bon, je crois que nos positions vont se rejoindre dans beaucoup de points. Alors, pour dire un peu d'où je parle, n'est-ce pas, suivant l'expression consacrée, j'ai un chemin un petit peu différent, mais le point de départ est le même, c'est-à-dire que je suis partie de la didactique de l'histoire. Je faisais une recherche en didactique de l'histoire qui m'a amenée à me poser la question de l'origine de la tradition pédagogique que je connaissais dans cette discipline. Et dans cette interrogation, j'ai rencontré un point d'appui très fort chez mon voisin qui avait commencé une réflexion de fond sur les disciplines scolaires dans laquelle il indiquait, entre autres, que cette tradition pédagogique avait parfois pour effet de dispenser les professeurs de la réflexion, justement, aussi bien historique qu'épistémologique, sur ce qu'ils faisaient, puisqu'ils se trouvaient pris dans une tradition qu'ils n'avaient qu'à continuer du mieux qu'ils pouvaient. Et effectivement, alors moi, ma discipline, c'était l'histoire. Et l'histoire est une discipline où précisément cette tradition était très forte, où les interrogations épistémologiques ne tenaient aucune place au temps où moi j'ai fait mes études d'histoire. Et ça remonte très loin, vous me dispenserez de donner les dates exactes. Et c'est la didactique de l'histoire, d'autre part, est une discipline encore plus jeune que la didactique des mathématiques, parce que les mathématiques, grâce aux IRM, ont quand même acquis une certaine ancienneté et donc une certaine légitimité, tandis que la didactique de l'histoire est beaucoup plus récente et n'est d'ailleurs toujours pas reconnue comme une discipline à part entière. Alors, il se trouve qu'en faisant donc ma recherche historique sur la tradition pédagogique de l'enseignement de l'histoire, eh bien, j'ai eu la chance d'être recrutée au service d'histoire de l'éducation. Donc, j'ai continué évidemment dans cette direction. Mais voilà, le premier point sur lequel je rejoins Michel, c'est que le point de départ, c'était une interrogation liée à la pratique actuelle du métier, c'est-à-dire que la didactique pose un certain nombre de questions qui peuvent motiver des enquêtes historiques, puisqu'il est bien connu que l'histoire, c'est une discipline certes tournée vers le passé, mais dont le moteur, c'est les questions du présent. C'est la didactique pose un certain nombre de ces questions qui est intéressant, pour lesquelles il est intéressant d'interroger le passé. Ceci dit, comme l'a dit aussi Michel, interroger le passé, ça ne se fait pas. Ça nécessite un certain type de spécialisation, et donc c'est vrai que l'amateur n'est pas toujours armé pour aller aussi loin que le peut un professionnel, pour simplement parce que il faut avoir la pratique des sources pour aller remonter assez loin en arrière. Et donc je me demandais donc quelle était de quand datait cette tradition de l'enseignement de l'histoire que je connais, que j'avais connue comme élève et que j'avais reproduite comme enseignante, car de mon temps aussi, la formation pédagogique des futurs professeurs était fort limitée. Et là-dessus, les historiens, curieusement, n'avaient guère de réponse. L'histoire de leur propre discipline, ils la connaissaient, c'était leur point aveugle. Il faut dire que l'histoire est une discipline, une de ce qu'on appelle parfois les disciplines du soupçon, c'est-à-dire que l'intérêt se porte le plus souvent sur leur contenu, puisque ce contenu est supposé avoir une influence directe sur les esprits des élèves. Je dis bien supposé parce que, précisément, une des questions que la didactique a soulevée, c'est celle de l'effet exact de cet enseignement, qu'en retiennent véritablement les élèves. Ça, c'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse valable pour l'éternité, de toute façon. Mais en remontant donc vers les origines de cette tradition pédagogique, supposée parfois supposée très ancienne, eh bien, je me suis aperçue que on pouvait la fixer au XIXe siècle. Et que la période précédente n'avait pas du tout connu un enseignement de l'histoire tel que nous le concevons, nous. Donc, c'est au XIXe siècle que se met en place le cours magistral d'histoire. C'est une des origines de mon intérêt pour le cours magistral. Et contrairement à ce qui est dit dans beaucoup de lieux et même dans certains ouvrages qui se présentent comme scientifiques, le cours magistral n'est pas un héritage de la nuit des temps, parce qu'en étudiant l'enseignement des humanités sous l'Ancien Régime, j'étais amenée à constater que il n'y a pas de cours d'histoire. Mais d'autre part, c'est pas un enseignement magistral qui est donné, contrairement à ce qu'on imagine. C'est au contraire un enseignement fondé sur l'exercice. C'est-à-dire que le travail des élèves se fait essentiellement en dehors de la classe et dans les heures d'études. Et les heures d'études ont beaucoup plus d'importance dans l'emploi du temps que les heures de classe proprement dites. Alors à partir de là aussi, je me suis efforcée de reconstituer la logique qui présidait à ce type d'éducation. Je dois dire tout de suite que c'est une éducation qui ne comporte pas d'éléments scientifiques, au sens actuel, n'est-ce pas ? Pas de science dure. C'est une éducation qui est exclusivement littéraire. Mais pourquoi est-ce une éducation qui comprend essentiellement, uniquement l'étude de textes grecs et latins ? C'est ce que j'ai essayé de comprendre. Et donc, à partir de là, je me suis trouvée face à un travail d'ordre un petit peu épistémologique, puisqu'il fallait reconstituer la logique interne des savoirs et les raisons qui faisaient que le latin et le grec étaient les éléments de base de tout apprentissage, y compris des apprentissages scientifiques. Pour être médecin, il fallait lire Galien et Hippocrate. Donc, un médecin devait savoir le latin et le grec. Et donc, à partir de là aussi, le problème de la relation entre la discipline scolaire et la discipline savante se posait d'une façon encore différente de la façon dont il se pose aujourd'hui. Parce que, sous l'Ancien Régime, en fait, cette distinction entre discipline scolaire et discipline savante est beaucoup moins marquée. En réalité, l'écolier est en un sens sur le même plan que l'érudit. Simplement, on lui fait étudier des textes plus simples, Il y a toute une gradation très savante, mise au point, en particulier, enfin, depuis le Moyen-Âge, en fait. Puisque, bon, c'est un héritage du Moyen-Âge, hein, cette nécessité d'étudier le latin. Le grec, c'est un apport de la Renaissance. Mais il y a toute une gradation qui permet donc de passer de textes simples à des textes plus élaborés. Mais en même temps, l'étude de ces textes n'a pas pour but uniquement de fournir l'écolier ou l'élève en connaissance, mais surtout celui de lui permettre de manier la langue. Car la finalité majeure, c'est une finalité pratique. Parler latin, parler grec, et elle rencontre en même temps une finalité religieuse et morale. Devenir un bon chrétien, puisque les textes sacrés sont accessibles dans ces langues, justement. Le latin, le grec, et bon, à la grande époque de la Renaissance, même l'hébreu, l'araméen, mais ça ne concerne pas les écoles. Et donc, il y a une continuité entre le travail de l'écolier et le travail des l'éridis, ce qui permet d'ailleurs à certains très jeunes gens, parce que bon, c'est son mari majoritairement des garçons qui font ces études, même s'il y a eu quelques femmes, mais en nombre très limité. Ça permet à certains très très jeunes gens de publier des œuvres qui prennent rang aussitôt parmi les œuvres scientifiques. Il y a un livre de Adrien Bayet dont Philippe Ariès s'était servi dans son histoire sa contribution à l'histoire de l'éducation, mais lui, ce qu'il avait regardé, c'était la question des âges. Et moi, j'ai utilisé ce livre d'un autre point de vue. Et ce qui m'a frappé, c'était que donc, parce que le livre s'appelle « Des enfants devenus célèbres par leurs études et leurs écrits avant l'âge de 20 ans ». Alors, il y a toute une collection de portraits. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'était le fait que, effectivement, un élève de 14 ans ou 16 ans pouvait publier un livre qui était reconnu immédiatement comme un ouvrage savant. Et puis, en regardant un peu au-delà, je me suis aperçue que, effectivement, alors bon, d'autres élèves jeunes publiaient, même si leur production n'atteignait pas ce degré de célébrité. Enfin, c'était, il n'y avait pas le hiatus institutionnel qu'on constate de nos jours entre l'écolier, l'étudiant n'était pas du tout aussi marqué. Enfin bon, là, de nos jours, il peut arriver qu'un master d'étudiant fasse l'objet d'une publication, mais c'est quand même rare. Et bien, ce genre de choses peut se produire à l'époque avec des gens beaucoup plus jeunes. Et c'est donc à partir du 19e siècle aussi, donc, c'est plus progressif que ça, je simplifie, mais bon, la distinction se creuse entre la discipline scolaire et la discipline savante. Alors bon, il faudrait faire entrer en jeu beaucoup de facteurs pour décrire et expliquer le processus. Et enfin, pour terminer ce que je voudrais vous dire ce matin, en ce qui concerne l'histoire, pour revenir donc à la discipline dont je m'occupe plus particulièrement, il y avait plusieurs thèses qui s'affrontaient sur la façon dont elle était devenue une discipline scolaire. Alors, il y avait des gens qui prétendaient que c'était le cas dès l'Ancien Régime, ce qui est... Pas soutenable. Et il y a aussi des gens qui pensait que elle était devenue une discipline scolaire à partir du moment où elle était devenue scientifique, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle. Or, quand on regarde maintenant, puisque, bon, arrivé au service d'histoire de l'éducation, j'ai été priée de m'occuper du 19e siècle. Et donc, quand on regarde ce qui se passe au 19e siècle, on s'aperçoit que, bon, contrairement à certaines légendes, d'abord, l'histoire est présente dans l'enseignement secondaire dès l'époque napoléonienne, même si c'est une prescription officielle qui n'est pas forcément réalisée dans les faits, mais officiellement, ça c'est inscrit au curriculum. Et la discipline est recréée sous la Restauration en 1818. En fait, elle a été, c'était une discipline d'élite pendant très longtemps. Elle était réservée aux lycées parisiens et à quelques lycées, ça s'appelait des collèges sous la Restauration, quelques collèges parisiens et quelques collèges de province. Et à partir de là, petit à petit, elle a rayonné, c'est-à-dire qu'on a nommé de plus en plus de profs d'histoire, mais au début, ils étaient très, très minoritaires, les spécialistes. Et l'histoire a très longtemps, jusqu'aux réformes de la vis, l'histoire a été enseignée par des gens qui n'avaient pas reçu, sauf les agrégés qui étaient en petit nombre, de formations spécialisées. Ils avaient la licence de lettres, puisqu'il n'existait qu'une licence de lettres, il n'y avait pas de licence d'histoire. Donc, ceci dit, les professeurs d'histoire qui ont été nommés donc sous la Restauration, ben, ils prétendaient déjà faire de la science. Hein. Quand on lit ce qu'ils ont écrit, ils se réclament effectivement de la science. Le problème, c'est que donc nous acceptons de nos jours une certaine notion de la science, celle qui a été élaborée à la fin du 19e siècle, essentiellement par la revue historique Monod et Fagnès, et qui s'est poursuivie depuis. Mais à les périodes qui précèdent, il y avait une autre notion de la science, et les professeurs d'histoire du secondaire la partageaient. Voilà. Quant à l'école primaire, c'est encore un autre problème, mais en me penchant sur les textes officiels, j'ai été amenée à voir que l'histoire avait fait son entrée à l'école primaire sous la forme de l'histoire sainte, plus que de l'histoire de France. Et que c'est dans le cadre de l'enseignement de l'histoire sainte qu'on a commencé à élaborer les prescriptions, la méthode de la leçon orale qui, par la suite, s'est imposée, comme Angéline l'a montré, dans l'enseignement de l'histoire de France, puisque bon, l'œuvre de la Troisième République, c'est pas d'avoir introduit l'histoire de France à l'école, hein, c'est d'avoir supprimé l'histoire sainte. Et donc, voilà, par ces quelques exemples, j'espère vous avoir montré la continuité qu'il peut y avoir entre des questions didactiques, des questions historiques, des questions d'épistémologie. Et je rejoins encore Michel pour dire que, effectivement, on ne peut approfondir un champ qu'en y consacrant suffisamment de temps et d'efforts, et donc ça interdit d'être universel, mais que l'important, me semble-t-il, c'est la communication entre champs voisins, en l'envisageant bien toujours comme une communication réciproque, c'est-à-dire chacun étant ouvert aux questions de l'autre et prêt à essayer de répondre aux questions de l'autre, tout en lui posant ses propres questions à lui.